C'est Christine Cossette au microphone, heureuse de vous accueillir sur les ondes de Radio Ville-Marie. Aujourd'hui, nous aurons le bonheur d'entendre à nouveau le Dominicain français Claude Geffrey, que nous avons entendu il y a quelques semaines dans le cadre de cette émission « Croire d'hier à demain ». Il nous avait alors entretenu sur le dialogue interreligieux. J'en ai alors profité pour l'interviewer sur la question de l'existence de Dieu. Avons-nous vraiment besoin de Dieu et pourquoi certaines personnes semblent ne jamais se préoccuper de cette question? Y aurait-il, dans le langage tel que le propose l'Église officielle, par exemple, un changement à opérer pour que la foi devienne un lieu de croissance, un lieu de liberté? Et pourquoi, pour reprendre les mots mêmes de Claude Geffrey, il serait bon de réserver un espace pour Dieu dans sa vie? Ces questions, eh bien, je les ai donc posées sans détour à notre invité qui a répondu, vous le verrez, avec grande générosité. Au moment où il est venu en septembre dernier, il était l'invité d'honneur du colloque organisé par l'Institut pastoral des Dominicains, un colloque qu'ils ont intitulé « Le dialogue contemporain des cultures et traditions monothéistes ». Et quelques semaines plus tard, il est revenu pour recevoir des professeurs du Collège universitaire dominicain d'Ottawa, un doctorat honoris causa, ici même à l'Institut pastoral à Montréal. Je vous fais réentendre, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission sur le dialogue interreligieux avec le père Geffrey, les raisons pour lesquelles on avait choisi Claude Geffrey pour la remise de ce fameux doctorat d'honneur. Réécoutons donc le vice-doyen de la faculté de théologie du Collège universitaire dominicain d'Ottawa, le père Michel Gourgues.
Oui, bien, c'est une candidature, vous pensez bien, qui a rallié à l'unanimité tous les collègues de la faculté. En raison, bien sûr, de la qualité du père Geffrey comme théologien, c'est certainement dans le monde francophone un des théologiens les plus connus, les plus respectés et les plus influents. Ensuite, c'est que plusieurs d'entre nous à la faculté de théologie ont étudié soit à l'Institut catholique de Paris, soit à l'Étude biblique de Jérusalem. Ce sont deux institutions qui ont marqué la nôtre. Et il se trouve que le père Geffrey a eu un rôle de direction dans les deux institutions. En outre, c'est que nous nous reconnaissons en tant que participants aussi de la même tradition dominicaine. Nous nous reconnaissons dans le type de démarche théologique qui est la sienne. Un théologien qui est toujours en recherche, qui pousse toujours plus loin, qui n'arrête jamais de travailler, pour une part. D'autre part, le type de théologie qui est la sienne, c'est-à-dire une théologie ouverte. Le père Geffrey est quelqu'un qui a eu une formation classique dans la tradition dominicaine, mais qui a toujours eu le souci de ne pas s'enfermer dans une tradition pour entendre les questions de la culture qui est la nôtre. Et comme il le dit, prévenir une espèce d'isolement culturel de la théologie. C'est autant de raisons qui nous ont fait choisir le père Geffrey à l'unanimité.
Je vous rappelle que Claude Geffrey a été tour à tour professeur de théologie et recteur des facultés dominicaines du Sauchoir. Il a été professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, directeur du cycle des études de doctorat en théologie de cette même institution. En 1996, il est devenu directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Enfin, il a été professeur invité dans plusieurs facultés de théologie, Bruxelles, Fribourg, Atlanta, Kinshasa, Yaoundé, Ottawa, Sherbrooke et Québec. Ce fut un pur bonheur de converser avec le père Geffrey sur la question de l'existence de Dieu et de quelques problèmes qui s'y rattachent. Père Claude Geffrey, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir répondre à nos nombreuses questions. C'est d'abord, je dois dire, un honneur pour moi de vous recevoir dans le cadre de cette série d'émissions de radio qui veut souligner le 50e anniversaire de l'Institut de pastoral de Montréal. Alors, c'est un honneur, mais c'est surtout une joie. Merci.
C'est également une joie pour moi.
Parlons d'abord, si vous le voulez bien, de la question de Dieu. Certains ont réglé cette question en disant qu'il n'existe pas, étant donné son grand silence. D'autres disent qu'il serait une invention de l'homme pour se rassurer d'une vie après la mort. Qu'en dites-vous, Claude Jeffrey?
Eh bien, je crois qu'il faut distinguer parmi ceux qui ignorent la question de Dieu. Il y a ceux qui l'ignorent parce que ils sont complètement plongés dans la vie quotidienne et ils ne se posent pas la question du sens de leur vie. Ils cherchent simplement des sens immédiats. Et je crois que surtout, il y a deux grandes catégories. Et il y en a, je dirais, qui n'ont pas le temps de se poser la question de Dieu parce que la vie, même la vie moderne, est suffisamment complexe, suffisamment lourde pour qu'on ne cherche pas à poser des questions auxquelles on ne fournit pas de réponse. Mais il y a ceux qui, je dirais, au contraire, vivent peut-être dans une certaine abondance, une certaine facilité, et à ce moment-là, je dirais, la question de Dieu est une question superfétatoire et une question qui les détourne de tout ce qu'ils peuvent consommer dans l'immédiat.
Et pour eux, est-ce que ça serait possible peut-être de trouver une trace de Dieu à l'intérieur de cette existence, peut-être un peu éclatée ou...
Je pense que le mot trace est extrêmement intéressant dans la mesure où qui dit trace dit que celui qui est passé est absent, comme il laisse des traces dans le sable.
Exactement, oui.
Et je pense que effectivement, nous avons affaire aujourd'hui parmi nos contemporains à beaucoup de gens qui ressentent très fortement l'absence de Dieu et ressentent, je dirais, mystérieusement la présence de Dieu à partir de son absence, si je peux dire. Parce que certaines expériences sont des expériences qui dépassent notre vie quotidienne et qui sont, moi j'appellerais ça des expériences révélatrices. Et je distinguerai deux types d'expériences révélatrices. Il y a des expériences révélatrices, par exemple, dans l'ordre de l'amour, une certaine intensité, pressant ce que peut être l'absolu, dans la mesure où on vit intensément la relation avec une personne. Ça, c'est de l'ordre donc de l'affectivité, de l'amour. Mais ça peut être aussi dans l'ordre esthétique. Il y a des gens qui pressentent, c'est pas à partir de spectacles de la nature, qu'il y a un au-delà de ce qu'ils voient et que cet au-delà est mystérieux. Les poètes en particulier ont le sens, je dirais, du liminaire ou d'un seuil à l'égard de quelque chose qui est absent mais qui est plus que présent. On pourrait, en prenant des termes plus philosophiques, dire il y a beaucoup de gens qui, à leur niveau, font l'expérience de ce que Emmanuel Kant appelait le sublime, c'est-à-dire ce qui dépasse l'ordinaire. Alors ça, ce sont les expériences positives, mais il y a aussi des expériences révélatrices à partir de ce qui est plutôt de l'ordre du négatif dans notre vie humaine.
C'est-à-dire?
Par exemple, l'excès de la souffrance, l'énigme de la mort, la faim dans le monde, qui sont des expériences de négativité, si vous voulez, mais qui, à mon avis, peuvent nous faire découvrir mystérieusement une certaine transcendance par rapport à laquelle nous faisons l'expérience d'une responsabilité infinie, même si cette responsabilité, nous n'arrivons pas à l'assumer. Autrement dit, un certain excès dans l'ordre du mal peut être une voie mystérieuse vers la découverte de Dieu, ou au moins d'un absolu vis-à-vis duquel on se sent en dette. Mmh. Comme dit le philosophe Emmanuel Levinas, nous sommes toujours en dette vis-à-vis d'autrui, et en particulier à l'égard du visage d'un autrui souffrant. Alors ça, ce sont des expériences révélatrices à partir, disons, de l'expérience du mal. Et puis, ce que je disais avant, c'est plutôt des expériences révélatrices à partir de ce qui est positif dans nos expériences humaines, des expériences fragiles, fugitives. Mais le mot trace est excellent parce que trace, c'est pas un signe. Mais trace, ça veut dire que quelqu'un est passé et n'est plus là. Et je crois que, d'une manière plus générale, on peut dire que le monde contemporain vit collectivement un destin d'absence de Dieu. certains philosophes, certains théologiens ont réfléchi là-dessus. Il y a la très belle formule de Dietrich Bonhoeffer, donc ce protestant, pasteur protestant qui est mort dans les geôles allemandes, et qui disait qu'il s'agit de vivre devant Dieu l'absence de Dieu. Vivre devant Dieu, ça c'est la foi.
Ouais.
Mais en même temps, c'est un constat collectif d'absence de Dieu.
Ouais.
C'est vrai que c'est notre destin. C'est lié, je crois, à la modernité aussi. Et pour moi, ça touche aussi à la question du sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Bon, bah, c'est pas nécessairement le sacré au sens d'un sacré archaïque ou un peu folklorique. Il me semble que pour nos contemporains, le sacré a toujours quelque chose à voir avec l'intensité du visage humain, dans la mesure où le visage humain traduit un excès d'amour ou le visage humain traduit un excès dans l'ordre de la souffrance. Et c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance à certains films en face desquels nous avons la même attitude que vis-à-vis de ce qui est sacré, c'est-à-dire que nous faisons du silence. Nous sommes comme astreints au silence devant un visage qui est transfiguré par l'intensité de la passion, de l'amour, mais aussi un visage qui est transfiguré par l'intensité soit de la souffrance, soit au moins l'intensité de la compassion à l'égard de la souffrance.
Oui, nous avons ici vu la semaine dernière ce très beau film des Dieux et des Hommes au Festival du Nouveau Cinéma.
Les visages de ces moines dans Les Hommes et les Dieux sont de véritables icônes par rapport à, là aussi, une absence de Dieu, mais aussi une présence de Dieu. C'est-à-dire que malgré une situation vraiment extrême, dans l'attente peut-être d'un attentat ou de la mort, ces visages traduisent une certaine douceur, une certaine tendresse, une certaine paix. Et comme dit très bien le prieur Christian de Cergy, vous avez déjà donné votre vie en entrant dans la vie religieuse, eh ben, c'est normal que vous soyez, sans être des martyrs, que vous ayez à donner à nouveau votre vie.
Oui, oui. Et donc voilà là, des traces de Dieu dans ce monde à travers la beauté
voilà,
de ce film-là peut-être. Reste qu'il y a des gens qui, face à ce silence de Dieu, vont balayer toute la question de Dieu, vont l'éliminer ou dire « je n'en ai pas besoin ».
Oui, c'est alors, ça. Mais il y a plusieurs degrés. Vous avez des gens qui sont, comme on dit, simplement agnostiques,
oui,
qui pensent qu'on ne peut pas trancher la question de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Mmh. Et puis vous avez encore aussi des athées qui raisonnent et qui justifient leur athéisme, qui sont capables de dire que l'existence de Dieu est indémontrable, ça c'est évident, mais qu'en plus, si Dieu existe, c'est un Dieu injuste, donc il vaudrait mieux qu'il n'existe pas, surtout en face de l'expérience du mal.
Mais ce que j'aimerais bien essayer de comprendre, c'est cette forme de désenchantement que vivent certains chrétiens, en tout cas des gens qui ont été éduqués dans la foi chrétienne et qui tout à coup quittent la pratique religieuse et puis se désintéressent complètement à la question de Dieu. Mm-hmm. Comment vous pouvez comprendre ça dans nos sociétés modernes?
Eh bien, parce que c'est vrai que la question de Dieu ne peut être posée que quand on se pose d'une manière ou d'une autre la question du sens de sa vie, c'est-à-dire la question de son origine et la question de sa fin. Et beaucoup de gens n'accèdent pas à ce niveau de la question du sens, où si, le sens pour eux c'est toujours un sens immédiat, c'est toujours en fonction d'une action, d'une pratique. Ce n'est pas la question métaphysique du sens ou de la vérité.
Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une réponse à chercher dans l'organisation, par exemple, de l'Église telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec des dogmes qui sont peut-être inutiles, peut-être incompréhensibles, ou encore qui ne respectent pas les nouvelles découvertes de la science?
Le langage dogmatique, de manière plus générale, même le langage théologique n'est pas accessible à tout le monde. Mais si on veut vraiment faire l'inventaire de la foi chrétienne, ben, il faut pratiquer un certain nombre de distinctions et ne pas dire tout de suite que le christianisme est simplement un catalogue de dogmes. Il est quand même une confession de foi avant d'être un catalogue de dogmes. Or, beaucoup de chrétiens peuvent quand même réciter le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Certains mots sont difficiles à comprendre pour eux, mais enfin, c'est la foi de l'Église et ils sont prêts à confesser les vérités fondamentales de ces symboles de foi. C'est pas immédiatement un catalogue de dogmes. D'ailleurs, faites attention parce que il y a beaucoup de vérités chrétiennes qui n'ont pas fait l'objet d'un dogme. Faut pas penser que le contenu de la foi chrétienne, c'est uniquement une succession de dogmes.
Ouais. Avez-vous un exemple concret là pour
la résurrection, par exemple, n'est pas un dogme, c'est une vérité fondamentale.
Exactement. Oui. Alors donc c'est quelque chose qui ne bougera jamais et qu'on ne peut pas toucher. Alors que j'imagine qu'il y a certains dogmes qui pourraient être questionnés.
Disons que la formulation de ces dogmes peut faire difficulté, mais la substance de la foi que traduisent ces dogmes, elle ne varie pas vraiment.
Donc vous dites que c'est une question de langage.
C'est une question de langage, une question de reformulation. Il est certain que on ne peut pas ignorer que le christianisme a rencontré la Grèce, a rencontré ce qu'on appelle l'hellénisme, et que les premières confessions de foi de l'Église primitive ont été traduites avec des mots empruntés, des concepts et des mots empruntés au monde de la philosophie grecque. Que ce soit les mots de nature, de personne, d'hypostase, de substance, et que ces mots sont devenus difficilement intelligibles pour la plupart de nos contemporains. Alors, ça pose toute la question de la reformulation du dogme. C'est pas uniquement une question de transmission par rapport au monde occidental dans lequel nous sommes. C'est aussi la question de la mission de l'Église par rapport à l'ensemble du monde, au-delà de la civilisation occidentale. Or, il est certain que les dogmes, soit ceux qui ont été définis au Concile de Nicée, soit au Concile de Chalcédoine, ceux qui désignent la filiation divine de Jésus ou le mystère de la Trinité, sont formulés d'une certaine façon grâce aux concepts et aux mots grecs et ne sont plus transparents pour nos contemporains et surtout pour des gens qui viennent d'une autre culture, d'une autre civilisation, que ce soit le monde africain ou que ce soit le monde asiatique. Alors, que faut-il faire ? À mon avis, il ne faut pas dire ces dogmes ont été vrais autrefois et ils sont devenus faux. Il faut dire simplement que on ne peut pas les enseigner sans un commentaire et un commentaire qui soit adapté à la culture, au langage de ceux auxquels il s'adresse. Et il est possible de confesser Jésus-Christ comme fils de Dieu sans nécessairement adhérer à la formule « une personne est de nature » telle que le Concile de Chalcédoine l'a définie. De même, si on est chrétien, croyant, pratiquant, et que on est chinois, japonais, hindou, il doit être possible d'enseigner ce qu'est le mystère de l'Eucharistie au sens de la présence réelle du Christ sous l'apparence des espèces du pain et du vin, comme on dit, sans nécessairement faire appel à l'idée de transsubstantiation, qui est un mot auquel l'Église tient, parce que effectivement, ce qui était du pain est devenu le corps du Christ. Mais en fait, on peut quand même adhérer dans la foi à la présence réelle du Christ au moment de la célébration eucharistique sans passer par ce vocabulaire-là.
Vous avez écrit dans Profession théologien que les enseignements de l'Église devraient être reçus comme libérateurs par rapport à notre attente humaine. Alors selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un dogme qui libère l'être humain?
Un dogme qui libère, c'est une parole d'abord intelligible qui m'interpelle. Et un dogme est libérateur s'il me fait croître dans ma connaissance de Jésus-Christ et dans mon adhésion au mystère de Dieu comme Père. Alors, il y a des dogmes fondamentaux comme le dogme de la filiation divine de Jésus, il y a des dogmes fondamentaux comme celui de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il libère ? Et ils nous permettent quand même une certaine intelligence de la foi. Car ce qu'on appelle les dogmes, ce n'est pas une nouveauté par rapport à la foi primitive, c'est une explicitation de ce qui n'est pas encore tout à fait transparent dans les premières formulations, les premières expressions de la primitive Église. Mais on ne peut pas dire que les dogmes définis au 2e, 3e, 4e siècle sont une trahison par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament. Mmh. Si on prend l'ensemble du corpus du Nouveau Testament, que ce soit les évangiles, que ce soit les épîtres de Paul, il est évident que déjà là, eh bien, Jésus n'apparaît pas simplement comme un prophète, mais vraiment comme le Messie attendu, et surtout, on lui donne le titre de Seigneur. Curios, et ce titre est un titre réservé à Dieu. Mmh. Donc il y a déjà une certaine affirmation, je dirais, de l'égalité du Fils et du Père, même si, bien sûr, ça reste très mystérieux, parce qu'on aborde là le mystère de la Trinité. Comment peut-il y avoir un Dieu unique en trois personnes ?
J'aimerais peut-être parler de la lecture des Écritures. Mmh. En tout cas, si j'ai bien compris ce que vous en dites, le lecteur de l'Écriture ne devrait pas comprendre le texte seulement qu'à partir du texte, mais bien en tenant compte de différentes réalités de la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Eh bien, c'est un acte de lecture. C'est vrai pour tout texte, je dirais, d'une certaine façon, en ce sens que je lis un texte ancien, que ce soit un texte de la littérature ou un texte historique, je le lis à partir de mon expérience personnelle, de mon expérience historique. Autrement dit, il n'y a jamais de lecture totalement innocente d'un texte, en ce sens que quand vous lisez un texte, vous l'interprétez, et vous l'interprétez à partir de ce que vous êtes en tant que situé géographiquement, historiquement, quelque part, dans un moment de la culture. Donc, il n'y a pas de lecture innocente d'un texte sans une part de subjectivité au niveau de l'interprétation. Il n'empêche que, malgré tout, je ne peux pas faire dire n'importe quoi à ce texte. Je prends souvent la comparaison avec l'interprétation musicale, n'est-ce pas ?
Oui.
Ça me paraît une bonne analogie. Vous avez des notes, une écriture, une certaine écriture, et comme vous savez, il y a de multiples interprétations. Et vous allez juger quelle est la meilleure. Et quelle est la meilleure ? Est-ce que la meilleure interprétation, c'est celle qui reproduirait, je dirais, l'exécution de l'œuvre par l'auteur lui-même ? Non. C'est celle qui, à mon avis, est la plus capable de révéler le potentiel de beauté qu'il y a dans une pièce musicale. Et à ce moment-là, alors, j'actualise le sens de cette œuvre et je réveille quelque chose en moi, à savoir une nouvelle possibilité d'existence dans l'ordre de la beauté.
Oui. De là, peut-être, il faut le redire, l'importance du travail du théologien, hein, de toujours relire le texte.
Oui, et puis, le théologien, l'exégète, il faut aussi se demander quel était le sens de ce texte pour ses premiers auditeurs et ses premiers lecteurs. Et comment ce texte a été produit? Ce que nous appelons le Nouveau Testament, finalement, c'est la production de la première communauté chrétienne. Ouais. Or, la première communauté chrétienne avait certains intérêts au bon sens du mot, pour rendre la foi plus vivante. Donc, c'est à partir de cette donnée-là que je peux essayer de retrouver quelle était la portée de ce texte pour les premiers auditeurs et quelle va être la portée de ce texte pour moi aujourd'hui, avec la distance historique entre l'Église naissante et puis moi aujourd'hui.
Mmh. Et puis, on se rend compte, il faut bien le dire, que cette lecture du texte aujourd'hui ne résonne plus beaucoup. Je le vois autour de moi. Je ne sais pas ce que c'est en France, mais en tout cas ici.
Vous parlez de la lecture des Écritures.
Oui, oui, de la lecture des Écritures qui sont parfois, souvent, toujours, je dirais, des perles pour l'existence humaine, mais qui ne sont pas bien, j'imagine, compris, puisqu'on les délaisse, puisqu'on.
Je serais peut-être moins, sceptique ou négatif que vous, parce que Il y a beaucoup de gens, comme vous savez aujourd'hui, qui achètent des Bibles, des nouvelles traductions de la Bible. Je pense à la Bible traduite à la fois par des exégètes et des hommes de lettres,
oui.
C'est comme la Bible Bayard, et qui sont quand même très impressionnés par la valeur poétique de ces textes. On peut lire la Bible quand on lit, l'Iliade et l'Odyssée. Et à ce moment-là, ça résonne quand même pour un homme du 21e siècle.
Nous reprenons cette entrevue avec le père Claude Geffray, professeur émérite de l'Institut catholique de Paris. Permettez-moi maintenant de revenir sur cette belle expression que vous avez créée et qui nous a valu un ouvrage de vous, que vous avez intitulé « Un espace pour Dieu ». Pour vous, il est urgent de ménager dans l'homme un espace pour Dieu. Alors parlez-nous un peu plus de cette expression.
Cette métaphore de l'espace par rapport à Dieu m'est venue à l'idée que la principale difficulté pour nos contemporains en termes de prière, c'est que nous vivons d'un trop-plein. Notre conscience, notre imagination, grâce aux médias, grâce à la rapidité de l'information, etc., nous sommes pleins d'idées, d'images, et il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace pour autre chose. Donc, un espace pour Dieu, ça supposerait qu'on puisse déjà, dans les multiples tâches quotidiennes, laisser un peu d'espace pour la question du sens, la question du pourquoi, la question de l'origine, la question de la fin, la question de la gratuité, de la beauté, de la gratuité, de l'amitié et de l'amour, et que ça, ce sont des voies qui nous conduisent alors à un espace plus fondamental, notre capacité par rapport à Dieu. Donc j'aime la notion d'espace parce que elle combat le trop-plein dont nous vivons, et un trop-plein qui est souvent superficiel et qui nous empêche de laisser de la place, pas immédiatement pour Dieu, mais d'abord de la place pour notre identité, pour nous-mêmes, dans son rapport à l'absolu. Alors, c'est une métaphore comme une autre. Ça veut dire que je prends cette notion d'espace comme un désencombrement de notre imaginaire, de notre psychologie, mais je prends aussi la notion d'espace comme une manière de dépasser la quantité de savoir que nous avons alors sur Dieu lui-même. Nos fausses représentations de Dieu ou nos bribes de catéchisme qui font que nous ne nous mettons pas en face du mystère de Dieu dans ce qu'il a d'indicible au-delà du discours.
J'aimerais revenir à cette question de Dieu. Alors comment vous, Claude Geffray, vous aimez parler de Dieu? En quels termes?
En général, quand on me pose la question « qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous ?» Je dis tout de suite, c'est un Dieu qui est au-delà de l'utile et de l'inutile.
C'est celui qui est au-delà de l'utile et de l'inutile.
Oui.
C'est-à-dire
qu'il faut dépasser les utilités de Dieu, dépasser les fonctions de Dieu par rapport à l'homme.
Oui, parce que
Dieu, ça ne sert à rien d'une certaine façon.
Et d'ailleurs, c'est ce que les gens vont dire quand ils balaient la question de Dieu.
D'une certaine façon.
Parce qu'ils disent, il est inutile, je n'en ai pas besoin.
Oui, mais alors c'est là où on peut quand même les faire réfléchir et qu'ils constatent que dans leur vie humaine, quotidienne, n'est pas uniquement sous le signe de l'utile, mais est sous le signe aussi du gratuit.
Ouais.
Et que le gratuit, ce n'est pas forcément ce qui est fortuit ou arbitraire. C'est un autre type de valeur. Aristote distingue ce qu'il appelait les biens utiles et puis les biens honnêtes. L'amitié, ça sert à rien, mais c'est un bien honnête qui est drôlement nécessaire, de même que l'amour. Alors, je dirais que Dieu est à la fois inutile et plus que nécessaire. Inutile parce qu'il est sous le signe de la gratuité et qu'il faut démystifier les fonction de Dieu. C'est pas Dieu qui va vous aider immédiatement à être un homme ou une femme authentique. Je veux dire que on peut être un homme et une femme authentique sans adhérer à l'existence de Dieu. Mais je découvre que Dieu est plus que nécessaire parce que si je crois en Dieu, Dieu coïncide avec une nouvelle possibilité, une nouvelle naissance en moi. Quelquefois, j'aimerais dire que le mot qui convient peut-être le mieux à Dieu par rapport à la trame de nos existences, c'est la naissance de Dieu. Et que cette naissance de Dieu coïncide avec la naissance de l'homme à lui-même. Autrement dit, Dieu est de l'ordre d'une source ou de ce qui est encore en deçà de la source. Et je découvre qu'il est plus que nécessaire. Et là aussi, je pense que la meilleure analogie, c'est celle de l'amour dans sa gratuité.
Oui.
C'est celle de la beauté dans sa gratuité. Vous pouvez vivre dans un environnement laid. Et, bon, on peut manger, boire, etc. Et il n'empêche que si cet environnement est suprêmement laid, il manque quelque chose de fondamental.
Ouais.
Et que quand cet environnement est beau, ça transforme quand même une existence. De même, l'amour ou l'amitié sont des dons totalement gratuits, pas nécessaires pour survivre. Mais en même temps, si ça manque, la vie humaine est quand même une vie qui est sous le signe, justement, du manque. Alors, peut-être que vous me disiez tout à l'heure, finalement, quelle est la trace de Dieu. La trace de Dieu, c'est l'expérience du manque en soi.
Ah oui.
L'expérience du manque par rapport à l'infini, à notre capacité infinie d'aimer, notre capacité infinie de découvrir la beauté, notre capacité infinie dans l'ordre du savoir. Et par rapport à cette capacité, le seul qui répond à cela, c'est Dieu.
De façon plus absolue, diriez-vous
Par rapport à une capacité infinie, il n'y a que Dieu qui puisse répondre, d'une certaine façon. Thérèse d'Avila faisait cette expérience-là constamment, du manque de Dieu, et que Dieu était finalement plus que nécessaire. C'est pas simplement une nécessité parmi d'autres, c'est plus que nécessaire. Et moi j'aime bien parler de Dieu comme une donation gratuite et qui coïncide avec l'expérience suprême de la liberté pour un homme. Et quand on dit gratuit, bon, gratuit, ça peut avoir un sens banal, c'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'il y a du prix.
Oui.
Mais gratuit, c'est aussi, religieusement, théologiquement, c'est la grâce, c'est-à-dire un don gratuit. Et il y a autre chose encore dans le gratuit, c'est le mot grec, par exemple, charis, qui veut dire le charme.
Mmh.
Et il y a des êtres qui sont peut-être des gens très intelligents, mais qui sont sans charme. Le charme ajoute quelque chose. Eh bien, Dieu est ce quelque chose qui rend la vie humaine beaucoup plus vivable, je dirais, et donne un sens à l'existence.
Et on pourrait ajouter, en utilisant votre très belle expression, laisser un espace pour Dieu dans sa vie.
Voilà,
oui.
Voilà. Il y aurait aussi, j'aime assez, pour prendre des grands mots, la tension, la dialectique entre le besoin et le désir.
Ah oui, oui, oui.
Or, d'une certaine façon, Dieu n'est pas l'objet de notre besoin. Parce que l'objet d'un besoin, ça se consomme, et puis après c'est terminé.
Exactement.
Tandis que si Dieu est l'objet de notre désir, il relance notre désir. Mais il n'assouvit jamais complètement notre désir. Et cette dialectique du besoin et du désir correspond au mystère de Dieu. Et pour reprendre une expression d'Emmanuel Lévinas, je dirais que Dieu répond aux besoins luxueux de l'homme.
Oui, à son désir, au fond.
À son désir,
parce que...
Et au dépassement de son désir.
Oui, oui, au dépassement. Mmh. Oui, c'est ça. Père Claude Geffrey, on parle souvent du christianisme comme d'une religion qui sauve.
Oui.
Alors,
c'est une religion qui prétend sauver l'homme. Oui.
Alors, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes souvent, les gens posent la question, de quoi sommes-nous sauvés?
Eh bien, selon l'Écriture, nous sommes sauvés du péché, nous sommes sauvés de la mort, à la fois la mort spirituelle et la mort biologique. Et je dirais, nous sommes sauvés de toutes les formes de mort, ou on pourrait dire aussi toutes les formes de néant. Le non-savoir, c'est une certaine mort. La haine, c'est une certaine mort. La souffrance, la maladie, c'est une certaine mort. Eh bien, en Jésus-Christ, nous pouvons donner, c'est peut-être prétentieux de le dire, donner un certain sens quand même à ces expériences négatives. Car finalement, si on écoute l'enseignement de Paul, la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est ? C'est de mourir en Jésus-Christ, de mourir avec lui, d'être mis au tombeau avec lui. Et parce qu'on est mis au tombeau, de renaître, de ressusciter. Et la résurrection n'est pas quelque chose de projeté au-delà de notre mort, mais la résurrection ou la gloire, c'est quelque chose de maintenant. Et quand on me demande, je crois que ça faisait partie de questions que vous vouliez me poser, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? Moi, je dirais que la vie chrétienne est sous le signe de ce paradoxe qui perd gagne. C'est-à-dire, j'accepte de perdre en étant sûr que je vais gagner.
Ah oui.
Et ça peut être un commentaire de la parabole des talents. Parce que celui qui perd, finalement, c'est celui qui garde jalousement ce qu'on lui a donné, un seul talent, qui l'enfouit dans la terre. Et celui qui gagne, c'est celui qui risque de perdre son talent, mais pour en gagner d'autres. Eh bien, nous avons eu le don de la vie. Eh bien, cette vie ne nous appartient pas, elle nous est prêtée. Et nous la gagnons si nous sommes prêts à la perdre, à la risquer, pour le service des autres. Et c'est ça, je pense, quand même, la vie chrétienne, la sequela Christi, marcher à la suite du Christ, c'est finalement quelque chose qui a à voir avec le mystère pascal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre avec Dieu sans une mort à soi-même.
Ah oui. Donc, je reviens à ma question. Nous sommes, quand on parle du chrétien qui est sauvé, il est sauvé de la mort. On ne parle pas uniquement de cette mort après, de la vie après la mort, sauvé de la mort ici, et aussi et maintenant.
Dans l'expérience.
Parce qu'on a souvent limité, je dirais, la foi chrétienne à la foi, la vie après la mort. Ouais. Et puis, tout en oubliant que la vie, elle est ici et maintenant.
Et vous posiez tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce qui change dans la foi. Je dirais que un élément quand même assez fondamental, parce que c'est une donnée un peu scientifique, je dirais. Il est certain que, l'enseignement de Paul en particulier, de Saint Paul, tend à nous persuader que ce que nous appelons la mort, enfin, comme mort biologique, est une conséquence du péché. Or, ça ne me semble pas quelque chose de totalement évident, en ce sens que si nous sommes mortels, nous sommes mortels et nous sommes créés mortels.
Ouais.
Donc, il s'agit beaucoup plus de la mort spirituelle, qui est la conséquence du péché.
Ouais.
Donc, la séparation avec Dieu. Et c'est ça, la mort spirituelle. Mais imaginez qu'un homme sans péché aurait été un homme perpétuel, immortel, c'est une illusion de l'esprit.
On sait, en tout cas particulièrement ici au Québec, là, que la religion chrétienne n'a plus l'importance qu'elle avait. Ça, on le sait. En même temps, on sait que elle a laissé des traces, mais plus que des traces là. Elle nous a laissé toutes ces valeurs, je dirais, d'égalité homme-femme, de pardon, de compassion, de liberté. Ce sont des valeurs très chères, hein, aux Québécois. Mais en même temps, je dirais que elle a réussi sa mission au sens où elle a atteint son objectif, c'est-à-dire qu'on vit de ces valeurs-là. Et là, moi, je me disais, comme la religion, c'est pas une fin en soi, pourrait disparaître au profit d'un humanisme pur et simple.
Moi, je dis volontiers quelquefois que le christianisme a tellement bien réussi.
Exactement.
En termes de civilisation, oui. Qu'il est mort comme religion vivante.
Mais c'est ça mon problème.
Alors, si on analyse un petit peu, il est certain que les valeurs dont vous parliez, les valeurs séculières, liberté, égalité de l'homme et de la femme, solidarité, etc., sont devenues le programme de tous les humanismes séculiers. Et ce sont souvent, on voit bien, la solidarité, c'est une sécularisation du mot fraternité, qui appartient d'ailleurs au capital de la République française. On ajoute quand même à l'égalité, je veux dire, on a besoin de ce troisième terme qu'est la fraternité. Ouais. Alors, mon idée serait que la mission de l'Église serait de subvertir par l'Évangile ces valeurs qui sont déjà des valeurs séculières, reconnues par la plupart des honnêtes gens.
Oui, alors subvertir par l'Évangile, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Subvertir par l'Évangile, c'est retrouver le souffle de l'Évangile et traduit de manière plus concrète, intelligible. Notre société est une société, enfin je parle de société libérale dans les États de droit, ça existe quand même en dehors de l'Europe, sont des sociétés sous le signe de la justice.
Oui.
Et c'est donc sous le signe de l'égalité des citoyens et sous le signe du droit de chacun à la propriété, à un certain nombre de biens. Or, une société qui vivrait uniquement sous le signe de la justice des hommes, c'est une société sous le signe de l'égalité. C'est-à-dire de la dette que l'on doit, que l'État et que chacun doit. Or, une société qui est uniquement sous le signe de la justice devient vite une société irrespirable. Parce que on ne prévoit pas tous les cas. Et il faut, ajouter ou compléter une culture de la justice par une culture de l'amour.
Ah ouais.
Et qui n'est pas sous le signe de l'équivalence, qui n'est pas sous le signe simplement de l'égalité, mais qui fait que nous avons un devoir plus exigeant à l'égard des plus démunis.
Oui, c'est comme, si je comprends bien, c'est comme si on humanisait la justice.
C'est une loi de surabondance. Une loi de surabondance. Et à mon avis, c'est le programme un petit peu des béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Et c'est pour ça que l'humanisme séculier n'est pas... Enfin, son contenu est proche de l'humanisme évangélique, mais l'humanisme évangélique ajoute des valeurs qui ne sont pas prévues par la loi. Le pardon, la compassion... Oui.
Au fond, cette gratuité dont vous parliez tout à l'heure.
Oui.
Et
oui.
qui vient donner.
J'aime beaucoup la formule de Jean-Paul II à la fin de sa vie qui disait pas de paix sans justice et pas de justice sans pardon. On voit bien dans les conflits actuels, les conflits interminables, on ne s'en tire pas simplement en termes de justice. Il faut quelquefois que les dirigeants fassent preuve, pas simplement les hiérarches religieux, mais les dirigeants politiques fassent preuve de pardon.
Ah ouais.
Et par ailleurs, il est bien évident que on ne peut pas promouvoir la paix sans un minimum de justice. Vous voyez le conflit israélo-palestinien, il n'y aura jamais de paix s'il n'y a pas une justice qui est faite à la fois à Israël et aux Palestiniens.
Ben écoutez, au nom des auditeurs de Radio Ville-Marie, je vous remercie pour cette très belle rencontre, pour cette bonne rencontre. Je tiens aussi à vous féliciter je sais que vous recevrez dimanche un doctorat honoris causa du Collège universitaire des Dominicains d'Ottawa, que vous recevrez ici à l'Institut pastoral. Alors, bravo, Père Geoffrey, bravo.
Je suis très touché de la confiance de mes frères québécois.
Oui. Bon séjour au Canada et bon retour chez vous à Paris. Merci beaucoup.
Je vous en prie, j'étais très heureux de vous rencontrer et d'essayer maladroitement de répondre à vos questions qui sont des questions immenses.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste donc quelques minutes avant la fin, juste assez pour vous dire que ce fut un réel bonheur pour moi de rencontrer Claude Geffrey, un homme authentique, qui a su nous livrer une réflexion plus que profonde sur la question de l'existence de Dieu et des raisons de croire, encore aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous rappelle que Claude Geffrey a publié « De Babel à Pentecôte, essai de théologie interreligieuse », Avec ou sans Dieu, le philosophe et le théologien, croire et interpréter le tournant herméneutique de la théologie, profession théologien, quelle pensée chrétienne pour le 21e siècle, passion de l'homme, passion de Dieu, le christianisme au risque de l'interprétation, un espace pour Dieu et un nouvel âge de la théologie. Je tiens donc à remercier Claude Geffrey, professeur émérite de l'Institut catholique de Paris. Merci, Père Geffrey, pour cette rencontre que je n'oublierai pas. Merci à Michel Gourgue pour sa participation à cette émission et à Marc Chevary au travail technique. Je vous rappelle que cette série d'émissions est réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette au microphone qui vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.